Bonjour et bienvenue au Transversal, une émission en trois volets qui se propose de faire connaître, se croiser le temps d'un portrait, d'une rencontre au fil des jours des acteurs au quotidien de la vie culturelle et artistique à Marseille. Cette semaine, il sera question du spectacle qu'on pourra voir sur la scène du Théâtre de l'Œuvre les 13, 14 et 15 février, c'est-à-dire qu'à partir de jeudi prochain. Il sera question de la compagnie Manifeste Rien, qui une fois encore porte au théâtre une adaptation d'une histoire universelle de Marseille de l'an 1000 à l'an 2000, rien que ça, un opus de 792 pages de l'essayiste marseillais Alessis Del Umbria. À eux deux, ils sont les fondateurs de la compagnie Manifeste Rien. Ensemble, ils choisissent d'adapter pour le théâtre des œuvres d'auteurs de sciences humaines et non des moindres, nous y reviendrons. Elle est comédienne, il est auteur et metteur en scène. Ils sont à mes côtés cette semaine, Virginie Aymon, Jérémy Béchon. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et
bonjour.
Bienvenue au Transversal. Et tout de suite, on écoute.
Marseille, je marche souvent seul dans tes rues.
Voilà, c'était un petit clin d'œil à Marseille. On vient d'écouter Ahmad Jamal. J'ai trouvé que c'était pas mal. Mm-hmm. Mais sinon, tout au long de la semaine, nous aurons des musiques, des sons que vous aurez apportés, que vous avez choisis pour illustrer cette émission. Alors tout d'abord, une histoire universelle de Marseille, de l'an 1000 à l'an 2000. Un opus donc de 792 pages de l'essayiste marseillais Alessis Del Umbria. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de mettre sur scène ce texte-là, en 2009 déjà ?
On a fait plusieurs versions de ce spectacle. Des gens viennent d'ailleurs... reviennent le revoir. Oui, là, j'espère aussi le découvriront. Les 13, 14 et 15 février. L'idée première, ça a été d'abord de partager ce livre. Là, vous aviez dit qu'il fait 792 pages, mais il faut savoir que le but, ça a été de le transmettre dans une forme tout public et populaire. Le spectacle fait une heure et de pouvoir se servir du plateau et du théâtre pour faire connaître cette histoire de Marseille que les Marseillais portent en eux, mais sans le savoir, et de mettre à jour, à travers la distance de l'histoire, le rapport conflictuel, amoureux qu'on peut avoir à sa propre ville aujourd'hui.
Donc ça, c'était au départ. Mmh. Ensuite, vous avez repris souvent ce spectacle-là, à chaque fois avec des modifications, une réadaptation ?
On l'a amélioré au fur et à mesure des plateaux qu'on a fait. Quand on l'a joué également à Paris, je me souviens, le public n'avait pas réagi de la même manière que le public marseillais. Ça m'avait donné envie d'améliorer encore le spectacle. Et puis, il y a la création de lumière qu'on enrichit à chaque fois. Donc, le principe est le même. Après, c'est qu'on connaît de mieux en mieux notre propre matière, de mieux en mieux l'ouvrage, et qu'on peut aller de plus en plus loin dans les échos qu'on a par rapport au présent et dans l'interaction que la comédienne peut avoir avec le public.
Donc, c'est essentiellement par rapport à un nouveau regard que vous portez vous-même sur votre travail, plutôt qu'un nouvel éclairage de ce texte-là.
Oui, il s'agit d'améliorer la matière scénique qu'on a en permanence pour essayer d'être le plus performant possible et le plus drôle par rapport à ce qu'on peut passer de l'actualité, éclairé justement par cette histoire, par cette mémoire-là qui est très souvent occultée et très souvent instrumentalisée.
Alors, 2009, aujourd'hui on est en 2020, est-ce que cette version a beaucoup changé ?
Oui, je viens d'y répondre, je crois. Déjà, après, ce sera au public d'en juger. Beaucoup plus de théâtralité, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'improvisation, beaucoup plus de partage avec le public.
Alors, il y a des choses au niveau du montage qui ont été rajoutées.
Bonjour.
Il y a des choses depuis 2009, hein, je parle. Hein, oui. Il y a effectivement des choses dans le montage qui ont été rajoutées par rapport à ce que nous, on pensait important de remettre dans le montage texte. Mais effectivement, c'est essentiellement au niveau scénique que ça a changé. Par contre, c'est une pièce qu'on a jouée il y a quoi, 2 ans encore, et elle était déjà il y a 2 ans dans la version
d'aujourd'hui.
Après, par rapport à 2020, effectivement, ça a été un choix de la rejouer cette année par rapport à tout ce qui se passe à Marseille et en France.
Et il s'en passe des choses.
Et il s'en passe beaucoup de choses.
Alors, ma question. Également, parce que Alesside et l'Umbria, on connaît son nom, mais on ne le connaît pas vraiment. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Ben, c'est un historien autodidacte, un écrivain, un essayiste, et qui a mis 10 ans à écrire ce livre-là. Ce qui est très intéressant, c'est que quand le livre est sorti, il a eu un assez bon écho dans le public relativement rapidement par rapport au réseau de distribution dont peut bénéficier un livre de sciences sociales, qui est assez réduit. Il a été snobé par une certaine partie de l'université parce que c'était pas un historien classique au sens du terme académique. Par contre, le livre s'est vite imposé dans les luttes sociales, dans l'anthropologie, et il a le grand mérite de réunir l'histoire urbaine, sociale, économique, linguistique, historiques, qui sont d'habitude des choses qui sont séparées, qui sont cloisonnées dans l'université. Là, c'est appréhendé d'une manière globale pour essayer de restituer un seul récit. Alors, dans le livre, c'est relativement complexe. Par contre, dans la mise en scène, on fait avancer ces différentes histoires de l'identité marseillaise, d'une langue provençale qui a été perdue, d'une double culture qui persiste, de cette culture occitane qui permet d'être encore aujourd'hui à Marseille un endroit qui peut accueillir les différents enfants d'immigrés tout en conservant sa culture d'origine. De cette histoire-là du conflit avec la France, de Marseille étant une ville à moitié française, on pourrait dire, et de se s'en mêler, qu'en faire aujourd'hui, comment continuer à avancer avec cette identité-là, du rejet des Marseillais, c'est-à-dire de cette image négative qui colle à l'identité de la ville, qui colle à ses habitants, avec ce renversement qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps avec le tourisme, avec la culture qui est devenue une arme économique, mais une arme économique aux dépens très souvent des Marseillais. Donc toutes ces choses-là constituent, encore une fois, notre identité de tous les jours. Et il s'agit de porter ça au plateau avec cette perspective historique.
Je crois, Virginie Aymon, que vous avez prévu de nous dire un extrait de texte,
oui,
du spectacle.
Oui, si vous voulez.
On y va maintenant.
Qui parle de la résistance de Marseille depuis le Moyen-Âge.
Allons-y, on vous écoute.
Malgré sa résistance, Marseille doit accepter, en 1257, la domination de Charles d'Anjou, encore un capétien. Et même si ce traité-là de 1257 confère à Marseille un statut particulier, hein, eh bien, mon Dieu, les Juifs, ils sont expulsés. Et le corps des 100 chefs de métier, là, supprimé. Cette satire-là, je la fais le cœur blessé. Qui peut dire et savoir le tourment ? Où que je me tourne, je ressens une grande anxiété. Alors comment écrire cet écœurement ? Le monde d'aujourd'hui est en décadence. On corrompt la loi, les sacrements et la foi. Chacun pense à duper son voisin. Les gens se tuent entre eux. Sans raison, hein, et sans droit. Non, chaque jour, moi, je suis dégoûtée et écœurée. Mais la nuit, je soupire. Non, que je veille ou que je dorme, hein. Non mais c'est normal ça. Où que je me retourne, j'entends des braves gens crier pitié aux Français en s'humiliant. Mais les Français n'ont pitié que de celui qui peut avoir de l'argent, hein. Ils connaissent pas d'autres droits. À eux l'abondance là et la grande bombance. Tromperie et trahison, la voilà leur religion. Voilà.
Donc cet extrait-là que vous venez de nous dire, et non pas de lire, s'inscrit à quel moment de la pièce ?
Il s'inscrit sur le début de la pièce avec ce personnage de femme marseillaise lambda de nos jours qui fait un constat sur sa ville, qui fait un constat qui regarde en fait les places qu'elle connaissait, qui regarde le Fort Saint-Jean, qui regarde le Vieux-Port et qui voit les transformations urbaines qui ont été faites actuellement. Et qui les déplore dans le sens où ces transformations, ce qu'elle déplore, c'est que ces transformations ont vidé certains lieux de leur population, de leur tradition.
Elle reconnaît plus sa ville.
Elle reconnaît plus sa ville. Et du coup, elle explique au public que c'est terrible, mais que la ville n'a pas toujours été comme ça, qu'elle est très vieille, qu'elle a 2600 ans. Et elle raconte à partir du Moyen-Âge toutes les résistances qu'a eu Marseille.
Et là, c'est la première résistance. C'est cette satire, je la fais le cœur blessé. Là, c'est un poème d'un troubadour du XIIIe siècle. Et c'est déjà la résistance de la cité de Marseille à Charles d'Anjou, donc à cette famille des rois de France. Et Marseille va, dès le début, défendre une république. C'est ça qui est très intéressant, la res publica, la chose publique. Et cette résistance-là va perdurer jusque très tard, jusqu'au XXe siècle, et elle résurgit aujourd'hui encore dans la lutte populaire. Donc c'était intéressant de voir comment un texte du XIIIe siècle résonne encore aujourd'hui avec cette volonté de mettre en commun les biens et de les partager.
Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que Alessie Del Umbria a participé au texte que vous avez écrit pour le théâtre et à la mise en scène ?
Mais en fait, lors des tout premiers montages qu'on a fait et qu'on jouait à l'époque en médiathèque dans des plus petits lieux, Alessie Del Umbria était venu et il avait apprécié le montage, mais il avait déploré, le mot est un peu fort, mais trouvé dommage par exemple qu'il n'y ait pas des passages, notamment sur la Révolution française de 1789 où Marseille a été excommuniée. Après avoir été portée en grand exemple de la Révolution française, elle a été la ville sans nom. Marseille a été débaptisée, fait des choses très très fortes la violence de la Révolution. La Révolution a continué la violence des rois de France. C'est ça qui était assez intéressant. Donc c'est des passages qu'on a rajoutés.
Et ensuite,
c'était très important pour lui. Donc oui, il a participé au montage, mais sous forme de l'oralité, justement, en venant voir les premières versions et qu'on a améliorées. Puis par la suite, quand on l'avait joué en 2013, on a également rajouté une partie justement sur le Fort Saint-Jean, le Fort Saint-Nicolas, le Mucem, toute cette organisation-là qui n'était pas présente dans le livre, puisque le livre a été édité en 2006. Et il a aussi validé ces passages-là qui n'étaient pas dans le livre, mais qui étaient dans la continuité de sa critique d'un espace urbain qui était changé sans respecter la mémoire des habitants de cette ville.
Alors justement, pour illustrer le sujet, vous avez choisi quelques morceaux musicaux, et en particulier Jacques Higelin, l'accordéon désaccordé. Mm-hmm. Vous pouvez nous dire pourquoi ce choix ? Jérémy Béchamp.
Parce que l'histoire, des fois, les gens pensent que c'est une histoire qui n'est que marseillaise. Alors oui, c'est une histoire marseillaise locale, bien évidemment, mais l'histoire universelle de Marseille, il faut savoir que c'est une autre histoire de France, vue du point de vue particulier de Marseille. Mais si Alessie Del Umbria était né à Tourcoing, il aurait pu faire la même histoire. Mais il aurait vu l'histoire de France d'après un autre village ou d'après une autre grande ville. Et ce qui est intéressant, c'est de décentrer ce regard-là et de voir comment les villes qui ont été de fortes richesses culturelles par leur souche plébéienne, par les petites gens, en sont aujourd'hui expulsées. Et la chanson d'Higelin sur Paris retrace cette même perte de l'identité parisienne.
Nous allons l'écouter.
Du beau Léon, le col à fleur de peau, les nappes de frissons, les vagues de langueur, et le cordon, langoureux de leur mélancolie, Marie mon vague à l'âme, celui du Paname, qu'on aime et qu'on oublie. café boisé charbon. Les flambeurs de Java soignant leur peine de cœur au Martini Picon. Les sifflets des poules beaux qui fusaient de la place. Quand les filles à Marlou veulent se le chalouper l'été à la terrasse des caboulots, où sont passés les fous rires et tous les mots doux des amants de la Seine, qui traînaient leur bonheur des cas de l'île Saint-Louis à Notre-Dame en fleurs. Dans quel nid au perché du paradis, les photographes se cachent les petits moineaux du Paris de Douaneau chanté par la môme Piaf. Les accords, l'accordéon désaccordé du beau Léon me fit la fleur de peau, les nappes de langueur, les vagues de frissons. Et dans ce vieux décor, illuminé par les tubos néons, je noie mon mal d'amour dans les bras du Paname, encerclé par les tours. Qu'est-ce qu'ils t'ont pas fait?
Et l'accordéon désaccordé, ça m'a permis de retrouver cette chanson que j'avais complètement oubliée. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, comment on fait, comment vous faites, et c'est pas la première fois que vous vous y attelez, de mettre en scène un texte aussi dense, 790 pages, voire plus, et une heure de spectacle. Comment on fait? Comment vous faites et comment vous travaillez tous les deux?
Il faut savoir aussi que le théâtre, ça permet de faire des raccourcis aussi, parce que tout ce qu'un auteur va détailler avec des mots, l'acteur, il peut faire plusieurs choses en même temps. Hein. Il peut donner une information historique, jouer l'émotion, en interprétant un personnage qui va déterminer sa classe populaire et son sexe et beaucoup de choses. Donc il y a déjà beaucoup de raccourcis qui peuvent se faire comme ça. Et ensuite, sinon, on travaille à créer un montage où on tire une ligne qui nous intéresse. Et à partir de ce montage, sur scène, moi j'essaye de le mettre en voix, donc on est vraiment sur des morceaux de textes, ben là notamment d'Alecide Ombria, et petit à petit, pour le mettre en bouche, je vais oraliser ce texte-là, mettre en action les mouvements populaires, je vais jouer le décor en même temps que j'oralise le texte, et là Jérémy note ce qu'on garde pas, pour en garder l'essence, quoi.
C'est vraiment un travail à deux.
Ah oui, hein, complètement.
La compagnie.
Oui, après il y a le travail de la lumière qui vient scénographier tout ça, et puis le fait de le jouer devant notre propre équipe, d'avoir des retours. Le public fait aussi beaucoup avancer au fur et à mesure des représentations, les débats qu'on a pu mener également, parce que des fois des gens nous ont dit: mais vous parlez pas de tel passage du Lier, vous parlez pas de tel quartier. Alors des fois en débat on a tendance à se défendre un peu et à dire on peut pas parler de tout, et puis très souvent après entre nous on dit mais quand même cet habitant là, cette habitante là a relevé quelque chose d'intéressant, et on essaye de le faire rentrer au fur et à mesure dans les autres représentations. Là où on y arrive aussi, c'est que l'histoire, l'anthropologie, les sciences sociales, c'est des mots qui font peur, mais c'est des choses qui sont assez simples si on se donne la peine de les étudier. Donc il y a ce travail d'étude en amont, de connaître au mieux l'ouvrage, au mieux les sources bibliographiques de l'ouvrage, mais ensuite de ne pas avoir peur de la restituer à son niveau, en tant que metteur en scène, en tant que comédienne. Pourquoi ce livre-là nous a plu? Pourquoi on l'a étudié? Il faut juste pas perdre cette ligne-là. Moi, je sais que j'ai ouvert le livre, quand j'ai acheté le livre L'Histoire universelle de Marseille, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce mec qui écrit sur l'histoire de ma ville? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir m'apprendre? Puisque beaucoup de gens ont écrit sur Marseille. Et dès que j'ai ouvert le page, j'ai vu le vide abyssal de ma connaissance historique sur Marseille, alors que je pensais connaître des choses. C'est toutes ces découvertes qui m'ont fait mieux me comprendre et mieux comprendre les rapports que j'avais passionnels à ma ville. Je me suis dit, je vais transmettre ça. Et il ne faut pas oublier cet endroit-là de transmission et de jouissance des connaissances qui ne sont plus réservées à une seule version qui très souvent écrase les minorités sociales, les minorités raciales, les minorités sexuelles. Tout cet endroit de libération, de partage, d'histoire commune qu'on peut découvrir à travers les livres, on veut le repartager par le théâtre.
C'est ce pourquoi vous utilisez tout le temps pour vos créations théâtrales des textes d'auteurs de sciences humaines, des historiens, des anthropologues. Oui, c'est ce qui vous paraît être la substantifique moelle de peut-être un message que vous avez envie de faire passer.
Ben, le message, c'est d'arrêter d'entendre sans cesse le même son de cloche, puisque sur Marseille, par exemple, c'est... on a plus belle la vie, on a l'impression d'être coincé.
Oui, enfin...
On est coincé entre le ghetto, hein, d'un côté, une misère sociale terrible, et une carte postale qui ressemble plus en rien à notre ville. Donc l'idée, c'est d'arrêter de laisser au JT, de laisser sans cesse aux mêmes porte-paroles une analyse des mouvements aujourd'hui, et d'éclairer des choses très très simples qu'on subit, mais avec le même langage que les puissants.
Et par le théâtre.
Oui, par quelque chose de simple, par quelque chose de burlesque, par quelque chose de poésie. Parce que comment ne pas passer par l'humour pour traiter de tels sujets ?
Alors, je vous donne rendez-vous demain matin pour la poursuite de cette émission. En tout cas, ce qui est important à dire et à rappeler à nos auditeurs, c'est que l'histoire universelle de Marseille se jouera sur la scène du Théâtre de l'Œuvre dès jeudi prochain, 20h.
Oui, c'est ça.
À Rémission de France.
Les 13, 14 et 15 février à 20h.
À demain.
À demain.
Merci.
À demain, merci.